Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, l'émission au double effet qui se coule de la soirée, 18h sur franceinter.fr en avant-première et puis 22h minuit à l'antenne. Comme tout le monde ce soir, une émission du sud au nord, direction Lesbos en Grèce, avec vous Basile Doganis pour votre film Meltem. Une jeune française d'origine grecque retourne en Grèce pour les vacances avec deux potes. Elle y croise un jeune réfugié syrien, drame familial, crise migratoire au programme d'un film qui ne fait pas l'économie de la comédie. Basile Doganis, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Vincent Jarousseau, qui s'est immergé dans une petite ville du nord de la France, Denain, ville sinistrée du bassin minier. Vous êtes allé à la rencontre des oubliés de l'impératif politique En Marche, des immobiles, des invisibles ou presque, car ils sont aussi gilets jaunes. Ça donne un roman photo militant qui prend à partie le président Emmanuel Macron. Vincent Jarousseau, bonsoir.
Bonsoir.
Dans le NRV La Suite, il y aura aussi bien sûr aujourd'hui Soro Solo pour sa chronique L'Afrique en solo. Je crois qu'on va partir du côté de l'Angleterre avec lui. Et pour La Suite avec vous, Benoît Lagan, un anniversaire, vous y avez tenu. Les 60 ans d'un type en culotte courte aux 15 millions d'exemplaires vendus, respect. Le petit Nicolas se surexpose.
Ah bah oui, il fête ses 60 ans et du coup, week-end d'anniversaire à la Fondation Vuitton, fin mars. Une flopée de publications à paraître dès demain. Le personnage de Sempé et Goscinny s'invite en deuxième heure. Et pour en parler des copains et des copines, le petit Aymar Duchâtenay, éditeur et premier de la classe La Bonne Copine, l'autrice et dessinatrice Catel, l'éditrice qui court très vite, Claire Faye, et le journaliste qui a tout vu, tout lu et tout entendu, Jérôme Dupuis.
Et dans le rôle de Fayot, bah ça sera moi. Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Cinéma et roman photo au programme ce soir avec vous deux, Basile Doganis, Vincent Jarousseau. Basile Doganis, vous signez Meltem, c'est votre premier long métrage sorti en salle aujourd'hui. Vous êtes allé voir ce qui se passe ?
Pas encore en fait, je suis peut-être un peu superstitieux. Mais
vous n'êtes pas allé en salle, bon nombre de vos collègues font ça, ils se cachent à la fin au fond d'une salle. Non, vous ne l'avez pas fait ?
Non, mais je vais le faire tout à l'heure.
Le film va sortir en Grèce aussi ?
Oui, normalement, alors je n'ai pas encore les dates, mais il devrait être aussi programmé au festival du cinéma francophone en avril. Et je ne sais pas trop après quand il y aura la projection, mais...
Le film se passe en 2015 à Lesbos, qu'on a surnommé le Lampedusa grec, avec ses dizaines de milliers de réfugiés qui arrivent et qui s'entassent sur l'île. On va parler plus particulièrement du film tout à l'heure. Juillet 2015, c'est particulier comme situation, vacances et front migratoire.
Oui, en fait, c'était le cadre lui-même de cette période et de cet espace-temps qui était très particulier parce que en 2015, pour rappel, c'était à la fois le pic de la crise économique grecque, les menaces de Grexit. Mmh. Il y avait aussi l'arrivée très très massive des migrants et notamment syriens aussi en lien avec la temporalité de la guerre civile syrienne avec Daesh aussi qui était au plus fort et du coup il y avait cet exode très massif de Syriens qui coïncidait par ailleurs avec les fermetures des autres routes migratoires de la Méditerranée, ce qui faisait que vraiment il y avait une espèce d'appel d'air du côté de la Turquie et de la Grèce. Donc c'était vraiment le point d'entrée le plus massif de tous les migrants vers l'Europe. Et le tout en été où voilà les vacanciers ont aussi leurs habitudes et du coup c'était cette coexistence entre des Grecs un petit peu malmenés, ruinés, des migrants, des touristes plus ou moins nonchalants et du coup c'était dans cet espace-temps que
et un tournage de cinéma par-dessus le marché
voilà bon qui a eu lieu un peu en décalé mais du mais coup c'était peux... ouais, c'était, ouais. C'était le cadre
ouais. Je peux imaginer. Vincent Jarousseau, vous êtes photographe, documentariste, vous avez un peu documenté justement la crise migratoire, qu'elle soit là-bas ou qu'elle soit ici à Paris?
J'ai principalement documenté en France, pas énormément par rapport à certains de mes confrères, mais ouais. Oui, j'ai fait un certain nombre de reportages, en particulier à Paris et dans le nord de la France.
D'accord, style Porte de la Chapelle
Alors moi, c'était surtout au début du phénomène, quand il y a eu les premiers réfugiés sur le quai d'Austerlitz.
Ah, c'était le quai
d'Austerlitz, j'avais fait l'immersion de plusieurs jours pour Libération. Ouais.
Alors Basile Doganis, vous êtes d'origine grecque, vous êtes arrivé en France à l'âge de 3 ans, et je lisais que vous aviez eu la nationalité française il y a à peine 4 ans. Je vous pose cette question parce que la nationalité, on y reviendra, mais c'est un sujet abordé frontalement dans le film. En 30 ans, on ne vous a pas donné la nationalité française?
Non, j'ai essayé plusieurs fois en fait, mais puis bon, ça, je pense que c'est aussi un peu les aléas et les hasards de l'administration, parce que mon frère et ma sœur l'ont eu assez rapidement,
ouais, c'est
plutôt du premier coup.
Très étrange pour vous.
Moi, ça, pour X raisons que j'ai même pas trop envie d'approfondir, j'ai beaucoup tardé. Mais ce qui était très drôle, c'était que la troisième fois, donc où j'avais 33 ans, on me l'a refusé encore pour insertion insuffisante, et il a fallu du coup faire appel, et c'était après l'appel que je l'ai eu.
Donc, insertion insuffisante, voilà. Alors que vous êtes en France depuis l'âge de 3 ans, voilà, et qu'est-ce qu'on vous demande pour que l'insertion soit suffisante?
C'est ce que je me suis demandé, mais bon, j'aurais pas eu de réponse à cette question.
Vincent Jarousseau, on va partir loin de la Grèce avec nous. Vous nous transportez à Denain, 20 000 habitants, dans le nord de la France. Ancien bassin minier plutôt prospère, on va y revenir. Aujourd'hui, c'est une des villes les plus pauvres de France. Vous avez rencontré les habitants, vous les avez interviewés, photographiés pour composer un roman photo à charge contre la politique d'Emmanuel Macron. Un roman photo qui fait suite à l'enquête et roman photo que vous aviez mené sur des villes dirigées par le Front National, l'illusion nationale. Donc ça, c'est la suite logique.
C'est une suite logique, même si évidemment c'est un propos différent, mais l'idée autour de ce livre a été effectivement de continuer à travailler sur les fractures françaises. Moi j'ai commencé à aller à Denain après avoir travaillé avec Valérie Gounet sur l'illusion nationale et le Front National, et c'est notamment le travail à Hénin-Beaumont qui m'a projeté à Denain. Puisque en allant à Hénin-Beaumont régulièrement depuis 2014, j'avais entendu parler de cette cité. Et c'est d'abord la curiosité qui m'a poussé dans cette ville avant l'élection présidentielle.
Vous y êtes resté combien de temps à Denain ?
Alors précisément, j'y suis resté plus de 2 ans. Au début, ça a été un travail, je savais pas exactement ce que je voulais y faire. J'ai commencé à y réaliser des reportages, parce que je suis aussi photojournaliste, en marge de l'élection présidentielle. Et c'est l'émergence à la fois...
Vous avez dit en marge, et j'ai entendu en marche de l'élection présidentielle, je suis complètement fou.
En marge.
Oui, j'ai bien compris.
C'est justement l'émergence d'En Marche, et en l'occurrence d'Emmanuel Macron, qui m'a poussé à rester dans cette ville. L'idée a été vraiment de documenter la relation de ces habitants qui étaient extrêmement éloignés de ce que Emmanuel Macron pouvait incarner, et de documenter le début du quinquennat d'Emmanuel Macron sous le regard de ses habitants.
Un roman photo explicitement dirigé contre Emmanuel Macron, contre son impératif En Marche. Vous y écrivez même une lettre adressée au président à la fin. C'est vraiment un roman photo engagé, dirigé contre la politique Emmanuel Macron ?
Engagé, je ne sais pas. Le fait est que c'est une forme de narration où le narrateur, quelque part, ce sont d'abord les personnages qui composent ce livre. C'est une succession de récits. Et le but du roman photo, c'est de passer du temps, tout simplement, avec...
Mais vous intervenez vous-même à titre personnel. Je signalais justement la lettre adressée à la fin à Macron.
C'est effectivement une mise en perspective, mais sur le reste, je dirais, du récit, le lecteur peut se faire un avis par lui-même. Moi, je donne juste, effectivement, mon opinion à la fin, et c'est ma part de contribution, finalement, à ce débat national, même si mon rôle n'est pas de faire des propositions. Mais dans le cas présent, le but est vraiment de s'effacer, d'abord au profit de ces personnes qui sont invisibilisées.
Vous êtes politiquement engagé ?
Je l'ai été.
Dans quel bord ?
À gauche.
Très à gauche ? Parce qu'à gauche, ça ne veut plus rien dire maintenant.
À gauche.
Ben à gauche.
La vraie gauche.
Et aujourd'hui, gilet jaune ?
Non. Non, non.
Soutien au gilet jaune ?
Soutien, non. Intérêt, oui.
On va faire plus amplement connaissance avec vous deux. On vous a demandé des sons qui vous ont marqué, des sons qui vous ont construit. Ça commence... tous les deux, vous avez choisi deux chansons et deux bruits. On commence par vous, Basile Doganis.
Φεύγεις αγάπη μου, φεύγεις χαρά μου, πάρ' τις ελπίδες μου, τα όνειρά μου, γρήγορα να έρθεις πάλι κοντά μου. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξένα.
Le choix de cette chanson, vous pouvez nous expliquer ? Basile Doganis.
Oui, en fait, déjà, c'est une chanson qui m'est très chère parce que c'était vraiment, c'est une chanson qui parle de l'exil et donc le titre c'est Alemania, les ports et PORTS évidemment. Et donc ça parle d'exil, de gens qui se séparent sur les quais, de navires qui quittent le pays pour l'étranger et qui emportent avec eux l'amour qui séparent les amants. Et c'est une chanson en fait qu'écoutait ma mère tous les dimanches, en tout cas très souvent, et qui elle dansait un peu seule dans le salon de notre appartement, et c'était un espace très étrange parce que pour moi c'était, je la voyais en fait se rattacher elle à la Grèce et qui était aussi mon pays, mais moi c'était, enfin j'étais en France, donc c'était aussi pas mon pays, donc c'était, j'avais un sentiment très mêlé à la fois. Je participais de ce moment et en même temps je m'en sentais un petit peu exclu. Je savais qu'il y avait quelque chose dans son lien à son pays qui n'était pas le mien. Et ça signait aussi le fait qu'on était en France et pas tout à fait de la même manière que d'autres Français. Donc voilà, c'était.
Elle vous a appris à danser ?
Je pense qu'elle a essayé très fort, mais j'ai beaucoup résisté.
Et la résistance est tombée ?
Oui, oui.
Aujourd'hui, mais vous savez danser, ouais, je peux imaginer. Bah, une chanson aussi pour vous, Vincent Jarousseau. Quel lien entretenez-vous avec cette chanson, Vincent Jarousseau ?
Cette chanson, ce groupe et ce genre musical, moi je suis un enfant né au début des années 70, j'étais adolescent dans les années 80, ça a été l'émergence des radios libres et aussi d'un certain style musical, là en l'occurrence les Smiths. Il y a plein d'autres groupes, j'ai longuement hésité dans le choix musical. Moi je voulais parler de cette chanson et de ce groupe parce que c'était aussi pour faire le lien avec la photographie. Moi il se trouve que je suis venu à la photographie en feuilletant les pages de Libération et des Inrecuptibles au milieu des années 80, parce que je me suis toujours intéressé à l'information. Je parle du vrai Inrecuptible,
hein, pas celui
de maintenant. Et c'est vrai que cette sensibilité à l'image...
Notamment des groupes de rock ou des figures
exactement,
de rock,
cette culture visuelle, ouais. Effectivement. J'ai commencé à la construire à ce moment-là. Et bizarrement, c'est vrai qu'aujourd'hui, je reviens et j'écoute ces groupes parce que quelque part, pour moi, c'est aussi une forme de, une part d'enfance, une part d'adolescence que je gagne un petit peu quand j'écoute notamment ce morceau des Smiths.
Et vous avez photographié des chanteurs dans votre parcours ?
Bizarrement, non, pas trop. Un petit peu, mais pas beaucoup.
Tout peut arriver. Un bruit particulier pour vous, Basile de Ganis ? C'est bref. Mais pas plus, on n'a pas trouvé plus. Mais je sais que vous aviez envie de développer.
Non, en fait, c'est pour moi... C'est...
Ça a surpris tout le monde. Ça. Même moi, je me suis dit, tiens, ouais, il va y avoir un silence.
Il est bizarre, lui. Non, en fait, c'est donc une messagerie vocale. Donc oui, vous avez, à très juste titre, vous n'avez pas meublé en mettant une voix qui disait que voilà, la personne n'est pas disponible et donc veuillez laisser le message. Mais l'idée, voilà, c'est la boîte vocale d'un téléphone et pour moi c'est un son très caractéristique, très important parce que quand il est associé à la perte d'une personne et que se pose la question de la coupure ou non de la ligne téléphonique, c'est tout de suite chargé de voilà, d'une émotion très particulière. Et dans mon film Meltem, il y a vraiment toute une tout un leitmotiv justement de la ligne de la mère
la décédée, mère du personnage voilà. Principal qui est morte, qui est décédée.
Tout à fait. Et le beau-père n'a pas encore eu la force de lui couper sa ligne téléphonique aussi parce que sa fille ne l'avait jamais appelé dans les dernières années. Et c'est presque en espérant que la fille finisse par appeler sa mère qu'il a laissé ouverte la ligne. Et il y a aussi toute une tension du coup associée à ça, et c'est cette espèce en plus de présence-absence qui...
On entend la voix alors que la
exactement,
personne est morte.
Exactement, ouais. Et ça c'est vraiment une sorte d'incarnation très particulière, parce que c'est vraiment la voix de la personne, et ça signifie à la fois qu'elle est là et qu'elle n'est plus, donc c'est très paradoxal, et c'est tout simple, et en même temps il y a une très grande charge émotionnelle pour moi dans ce son.
Un autre bruit tout aussi particulier pour vous, Vincent Jarousseau. Pilier de bar.
Alors, j'aimerais pas que. C'est pas ma réputation.
Mais non,
c'est effectivement un endroit. Ouais. C'est un endroit où je vais depuis toujours, presque toujours. Bizarrement, mon père avait horreur des cafés. Et évidemment, pendant l'adolescence, on se construit contre ses parents, évidemment. Et c'est un endroit que j'ai toujours aimé fréquenter, parce que pour moi, c'est un théâtre de la vie. Et aussi, aujourd'hui, professionnellement, c'est un lieu absolument essentiel, Même si, évidemment, il ne faut pas tout baser quand on fait un travail documentaire sur les bistrots, parce que tout le monde ne fréquente pas les bistrots. Mais oui, c'est quelque chose d'important. Si je prends le cas de Denain, par exemple...
Donc cette ville, donc dans le nord de la France.
Dans le nord de la France, effectivement, tout le monde me parlait des bistrots qui existaient à chaque coin de rue, à la sortie de l'usine. C'était le berceau d'usine Nord.
Mais à l'époque, hein, dans les années 70, parce qu'aujourd'hui, c'est terminé.
Il reste encore des cafés, mais c'est des cafés, il en reste peu, d'une part. Et puis, ça n'a plus rien à voir avec les cafés que l'on a pu connaître avant. Et c'est, je dirais aussi, le symbole d'une perte de lien social, quoi, finalement, où les gens se retrouvent chez eux, plus ou moins, ou ne se voient pas, finalement. Il n'y a plus de lieu de rencontre. On se croise dans les couloirs du centre commercial.
Alors qu'à Denain, à l'époque, hein, vous le dites au début du roman photo, il y avait 4 cinémas dans cette petite ville. 4 cinémas, il y avait plein de bars, il y avait des lieux de rencontre, les gens allaient danser, il y avait des dancing, on voit tout ça.
On voit ça dans la BD.
Dans la BD, parce que c'est comme c'est documenté au départ par la BD, non pas par la photographie, mais dans les années 2000, enfin plutôt 2017, à ce moment-là, c'est la photographie. Quel était votre bar d'élection ou le café d'élection quand vous étiez à Denain ?
Le Sporting Club. le Denain Athletic Club, excusez-moi, chez le Zef, c'était le nom, le patron du bistrot.
Il est photographié dans l'album.
Le Zef ?
Non, le Zef, mais un autre, l'Athletic, je sais pas trop quoi.
Oui, il est tout à fait, il y a une double page.
Exactement, publicité. Vous restez avec nous tous les deux, tout de suite, on part du côté de la Belgique. Les vibrations des Belges de Balthazar sur France Inter, ils seront en concert au Casino de Paris le 25 mars prochain.
Le nouveau rendez-vous.
Tu as ramené combien de copains ?
Elias, enchanté.
Enchanté.
Je viens de Syrie.
Bon, je vous ramène à la maison.
Et tu déposes où ?
Au papa, non. C'est interdit par les lois ici.
Je veux pas causer de problème. Je vais y aller.
Attends, on peut pas le laisser au bord de la route.
Elena. Si tu aides les migrants sans autorisation, on te considère comme un passeur.
En tout cas, on ne peut plus aider les gens, on est punis pour ça.
Laurent Goumard.
J'en ai rien à foutre de ce putain de loi, moi.
Sur France Inter.
Et voilà la situation dénoncée par Elena dans ce film Meltem. C'est votre premier long métrage, Basile Dagonis. Dans cet extrait, on y entend Elena, française d'origine grecque, qui est revenue pour les vacances dans la maison de famille à Lesbos avec deux potes de banlieue. Ils ont rencontré un réfugié syrien, Elias. Et dans cette scène, Elena est sur le point de lui proposer de l'héberger. Mais c'est hors la loi. Vous-même, vous vous êtes déjà mis hors la loi, Basile Dagonis?
Est-ce que je dois répondre à
ça? Ah ben, j'espère bien, ouais, je suis flic.
Voilà, c'est ça. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.
Donc ça veut dire oui. Tu vois, vous ne pouvez pas le dire.
Non, mais...
D'accord. Le film, c'est donc l'histoire d'Elena. En même temps, pas de réponse, ça veut dire bonne réponse. Le film, c'est donc l'histoire d'Elena. Son vrai prénom, c'est Meltem, comme le titre du film, parce que c'est aussi le nom d'un vent. Ça, je l'ai appris hein, en regardant le film. Quelle est la particularité de ce vent pour lui donner le titre du film?
En fait, c'est un mot, moi, qui me plaît particulièrement. Déjà, c'est presque... une espèce de palindrome, c'est-à-dire qu'on il commence et il finit de la même façon, M-E-E-M. C'est un mot turc, en grec c'est Melteme, on rajoute un I à la fin. Mais c'est à la fois donc ce nom de vent, c'est un prénom féminin, c'est aussi, en turc on utilise ça aussi métaphoriquement pour désigner des femmes à fort tempérament, comme on dirait de quelqu'un que c'est une tornade en français. Donc il y a toute cette polysémie. Et par ailleurs, le vent lui-même est très particulier parce que c'est un étésien, c'est un vent estival uniquement. Et il est extrêmement brusque, c'est un vent du nord qui souffle du coup entre la Grèce et la Turquie. Et il surprend vraiment beaucoup les marins, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, il peut y avoir une vraie tempête et il est particulièrement dangereux parce qu'impétueux.
Donc, une parfaite métaphore pour ce qui se passe dans le film.
Voilà.
Elena revient en Grèce, on comprend que sa mère a disparu, morte, que le deuil n'a pas été fait. Elena est à cran, surtout avec son beau-père qui lui est en Grèce et qui a un métier très particulier qui sert là aussi le propos du film. Quel est le métier de son beau-père ?
En fait, dans le film, le beau-père est biologiste, mais il met son savoir scientifique au service de la police scientifique. En Grèce, en fait, ça c'est inspiré de la réalité, c'est la responsable du département de la police scientifique grecque, Pénélope Miniati, a mis en place, avec le savoir-faire de la criminologie, une base de données ADN, spécialement pour enregistrer tous les noyés en fait qui n'auraient pas d'autres signes d'identification comme un pendentif, une photo ou évidemment une pièce d'identité, pour quand même répertorier en quelque sorte ces personnes, de sorte que si un jour leurs proches venaient à être en mesure, parce que évidemment les migrants sont pas spécialement dans des situations qui leur permettent après d'envoyer des ADN et puis de faire des rapprochements, mais au cas où plus tard ils auraient une situation un petit peu plus stable et qu'ils viendraient à demander ce que sont devenus leurs proches en exil, qu'il y ait un endroit pour répertorier ces personnes et qu'on apporte enfin une réponse aussi à ces gens pour leur dire de commencer ou d'achever leur deuil.
Vous saviez cela, Vincent Jean Rousseau ?
Non, je l'ignorais, mais je savais qu'il y avait des bases de données qui existaient au niveau des ADN, et y compris ces marchandisées aux États-Unis aujourd'hui, je crois. Il y a une application qui permet de retrouver...
C'est la dimension plus récréative, effectivement, ouais. Pour faire des généalogies.
Pas que récréative, je crois. Hein, ça a permis aussi à des personnes de retrouver d'avoir des explications sur des disparitions.
Sur des disparitions, ouais. Et sur leurs origines. Mm-hmm. Bref, Elena décide de vendre la maison, d'en finir avec la Grèce. Elle refuse de parler cette langue. Le film, c'est le temps qu'il faut pour assumer son identité, ses désirs amoureux aussi, et faire le deuil. La rencontre avec un jeune réfugié syrien, Elias, séparé lui aussi de sa mère, va cristalliser tout cela, bande-annonce.
I am Sekou, she is Elena, and she is Bolos.
Bolos, hi.
Je rêve quoi, elle ? Ça va être ça, les vacances ?
L'ambiance, elle est moisie, mais la baraque, c'est une dinguerie, mon frère.
Welcome to Varal.
Ça, c'est l'hospitalité grecque, frère. Thanks.
C'est trop cool que vous soyez là.
Elias.
Enchanté. Je viens de Syrie.
Je suis arrivé il y a quelques jours.
Faut qu'on l'aide à rejoindre sa mère.
T'en ferais autant si tu le kiffais pas.
Putain, tu comprends vraiment rien.
Welcome, refugees.
T'as vu ? Ils nous croient pour des clandos à cause de ta tête de blédard, là.
Je parlais de blédard, Kirikou.
Une fille française d'origine grecque qui ne veut pas parler le grec, qui a du mal avec ses origines, c'est quelque chose qui vous concerne aussi pour en faire le sujet de ce premier film, Basile Dagonis.
En fait, la question du rapport à la langue maternelle est cruciale dans le film. Et pour moi, il y a une symbolique très forte en fait dans l'association entre une figure parentale et un pays. Là, en l'occurrence, le fait qu'Elena soit embrouillée avec sa mère fait qu'elle bazarde en quelque sorte son héritage au sens figuré et au sens propre. Donc, et la maison qu'elle hérite de sa mère et tout son héritage grec culturel, donc sa langue, son une part de son identité. Et pour moi, c'est extrêmement fort en fait cette proximité entre le parent, le pays, que ce soit d'ailleurs le pays d'origine ou le pays d'adoption. Moi-même, en fait, alors c'est un petit peu différent, mais
oui, c'est déplacé, mais
c'est
vous
déplacé, mais j'ai une expérience un petit peu analogue avec la France et le français. C'est que donc au tout début, hein, quand je suis arrivé, que j'étais en maternelle, en petite section, j'avais 3 ans, et au début, je ne savais pas parler français, tout simplement. Donc c'est pour ça que je le parlais pas. Mais j'ai eu toute une phase où en fait je m'étais beaucoup replié sur moi avec tous ces petits. Je comprenais même pas trop le concept de l'école en fait. Donc je j'errais dans la classe debout pendant qu'il y avait des cours et puis je balbutiais des choses en grec et puis les gens me regardaient avec des gros yeux. Et en fait il y a eu tout un processus au terme duquel je me suis mis à parler, mais d'un coup en fait ça veut dire que j'avais inconsciemment enregistré, absorbé la langue, mais je refusais en quelque sorte de la parler parce que je me sentais pas encore à ma place. Et puis il y a eu un moment, il y a eu un déclic aussi dans notre vie familiale qui a fait que, me sentant bien tout à coup, j'ai d'un bloc commencé à parler français. Donc c'est un petit peu inversé dans le film, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà.
Ce qui frappe aussi dans le film, c'est l'accueil fait aux réfugiés. Alors, Elena veut prendre parti justement et veut héberger un réfugié, Elias. Mais pas seulement Elena, les habitants même de l'île, vous en avez rencontré ?
Oui, tout à fait. En fait, avant le début de l'écriture du scénario, j'ai vraiment passé un long moment sur l'île parce que déjà j'avais été sur beaucoup d'îles voisines, mais pas sur celle-là, sur Lesbos en particulier. Et c'est une île extrêmement singulière et chargée d'histoire, et notamment une très grande partie de ces habitants qui en fait sont eux-mêmes des réfugiés grecs venus d'Asie Mineure, donc exactement de Turquie, des Mikrasiates en grec. Et du coup, c'est aussi pour ça que il y a eu comme un mouvement d'identification de leur part vis-à-vis de tous ces migrants qui arrivaient. Moi, j'ai parlé à une femme comme ça qui s'occupait d'ailleurs du musée de la mémoire des réfugiés. Enfin, il y a un petit musée comme ça sur l'île. Et cette personne, donc descendante elle-même de Grecs de Turquie, disait, oui, quand j'ai vu arriver toutes ces familles, j'avais l'impression que c'était exactement les mêmes histoires qu'on entendait à la maison. Donc c'est comme si j'accueillais tout à coup ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, devenue plus jeune, peut-être un petit peu plus basanée aussi. Mais en tout cas, il y avait une vraie identification. Et c'est pour ça que malgré le contexte très difficile de la crise économique et de la grande précarité du coup des habitants grecs de cette île, il y a eu une immense solidarité. Voilà, donc ça c'est vrai que c'était un lieu très particulier pour installer cette histoire.
Vincent Jarosso, oui, vous connaissiez justement ce lien.
Oui, je connais cette histoire. Après, j'ai pas grand chose de plus à rajouter, mais effectivement, c'est ce qui singularise ces îles qui sont vraiment à quelques kilomètres des côtes turques, avec une histoire commune.
D'autant plus que certains Grecs, pendant la Seconde Guerre mondiale, s'étaient réfugiés en Syrie. Donc il y a vraiment un lien entre la Syrie et la Grèce, un lien historique.
Tout à fait, et c'est quelque chose de très peu connu, alors en France bien sûr, mais même en Grèce en fait, où les gens devraient quand même honorer cette mémoire, parce que donc effectivement pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de Grecs ont fui, alors dans le sens inverse des migrations actuelles, c'est-à-dire que eux sont partis par ces îles côtières de la Turquie vers la Turquie jusqu'en Syrie, et ont été recueillis par des Syriens, ce qui fait qu'aussi aujourd'hui beaucoup de Syriens arrivent avec des photos de ces camps disant regardez, on vous a aidé, aidez-nous. Et pour moi, ce mouvement double de la migration, qui ok aujourd'hui c'est dans le sens de l'est vers l'ouest entre guillemets, mais ce vent-là a tourné dans l'histoire et il peut de nouveau tourner.
Alors vous avez fait jouer aussi des réfugiés dans votre film, mais pourquoi fallait-il que le rôle du jeune réfugié soit pris en charge par un non-comédien, alors que tout le reste, tout le casting, ce sont des comédiens, pas forcément très visible, mais en tout cas déjà pas mal identifié dans une certaine partie du cinéma français. Mais pour le rôle du réfugié, vous êtes allé chercher.
Oui, en fait, j'ai découvert à la radio en fait un jeune réfugié donc palestinien, enfin syrien d'origine palestinienne, Karam Al-Khafri. Et d'abord, j'ai été vraiment très très touché par son témoignage et sa voix, et j'ai voulu le rencontrer. Et ça me paraissait beaucoup plus fort de faire appel à quelqu'un qui avait ce vécu, parce qu'il y a des choses qu'on... C'est pas qu'on puisse pas les jouer, mais quand on n'a pas à le faire, c'est quand même fort que dans le regard même d'une personne et dans son être physique et dans son magnétisme naturel, il y ait quelque chose de la lourdeur du passé, de l'exil. Ça, c'est, en tout cas, peut-être que tout le monde ne le perçoit pas, mais pour moi c'est très important et c'est quelque chose que je voyais dans cette personne. Et puis il se trouve que Karam a extrêmement bien joué son rôle, même s'il avait beaucoup hésité et qu'il était, il avait un vrai sentiment d'illégitimité à la fois du fait de sa précarité, disons, de statut en France, et du fait qu'il n'avait pas l'expérience des autres comédiens. Mais il s'en est vraiment très très bien tiré. Moi, il m'a énormément touché dans le film.
Quel est son statut aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, il a réussi donc à s'insérer ou s'intégrer.
Ah, voilà, c'est lui. Pas insuffisant pour lui.
C'est pas insuffisant. Et très heureusement pour lui, et sa famille a pu le rejoindre. Ouais. Donc il y a juste son père qui est aux Pays-Bas, mais sa mère et sa sœur sont en France. Ils sont installés à Marseille et il étudie. Toute sa famille travaille. Et sa petite sœur étudie aussi. Enfin, tout va bien. Et puis voilà, je lui souhaite tout le meilleur pour la suite.
Très bien, vous restez avec nous, Basile Doganis. Meltem, sorti en salle aujourd'hui, on va parler roman photo, gilet jaune et bassin mini avec vous, Vincent Jarousseau. Dans quelques instants, tout de suite, on quitte la Grèce pour retrouver les bruits de la ville avec deux voix de l'électropop à la française, Voyou et Yel dans le NRV.
Tu verras, c'est ta chance, les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide, perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelait entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière, pressés de rejoindre son cœur. Tu te lances dans sorte.
Les Tunisiens est à l'image du temps, c'est-à-dire très Mossad. Denain est mort, c'est fini, dit-on un peu partout.
cuisineur a confirmé la fermeture de l'aciérie de Denain avant la fin de l'année.
Ce que j'ai dit à l'ensemble des organisations syndicales, c'est que l'arrêt de la phase liquide à Denain était inéluctable.
Donc nous disons, c'est vraiment un gâchis industriel, c'est vraiment un gâchis social.
Refuser le plan gouvernemental.
Laurent Goumard.
Refuser les licenciements.
Sur France Inter.
Denain, ville sinistrée, un gâchis, c'est une archive de 1979. Vincent Jarousseau, vous resituez ce qui s'est passé. C'est le début de ce roman photo, Les Racines de la Colère, aux éditions Les Arènes.
Oui. Alors il y a un double symbole. Effectivement, c'est d'abord l'histoire intrinsèque de cette ville qui a contribué à la richesse du pays, puisque on y a extrait le charbon. C'est là que Zola a écrit Germinal, hein, en descendant dans une fosse, la fosse Renard. Et c'est aussi le berceau d'Usinor. On y a produit jusqu'à 10% de l'acier français quelques années avant la fermeture. Et c'est à partir de Denain qu'on a créé la coulée continue à Dunkerque. Et quelque part, ce sont les Denaisiens d'Usinor qui ont contribué à fermer leur usine quelques années après. C'est l'une des plus grosses catastrophes économiques et sociales d'après-guerre en France, avec Longwy, évidemment.
Bien sûr.
Effectivement, ça explique, je dirais, la situation dans laquelle se retrouve la ville aujourd'hui et depuis quelques temps déjà.
On peut dire que c'était quand même un site de plus de 10 kilomètres, c'est ça?
Oui, hein,
c'est ce que
oui,
j'ai appris.
Oui,
10 kilomètres. 10 kilomètres de long. Énorme.
C'était des emplois, c'était ça.
Il y avait des employés qui ne se connaissaient même pas.
Complètement,
qui
ça envahissait 10 000 salariés, hein, au plus fort, en emploi direct, hein, sachant que, en l'espace de 10 ans, il y a eu 10 000 emplois supprimés directs, et on disait que dans la sidérurgie, il y avait 5 emplois indirects. Donc le cataclysme a absolument été énorme. Et au-delà de la perte des emplois, ce qu'il faut bien voir, c'est que à l'époque, l'employeur organisait et régissait la vie des gens, la vie sociale, la vie sportive, l'éducation, la santé. Et tout s'est effondré.
Les Racines de la Colère, donc un roman photo et illustré aussi, sous titre 2 ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche. Et là déjà, vous posez le débat sur la question de la mobilité, on va y revenir. Quels sont les habitants que vous rencontrez quand vous présentez à eux? Qu'est-ce que vous leur montrez? Vous leur montrez ce que vous aviez déjà fait, c'est-à-dire le roman photo sur des villes dirigées par le Front National?
Non, je commence pas forcément par ça. La première étape, c'est d'abord... tout simplement de nouer une discussion avec les gens. Il y a différents types d'approches. Je vais rencontrer des personnes devant chez elles. Par exemple, je rencontre Guillaume qui apparaît avec Aline et Tanguy dans le roman photo.
Guillaume, 42 ans, sa femme 43 ans, 4 enfants.
42 ans quand je le rencontre. Et à l'époque, tout simplement, il y a sa voiture qui est garée devant la maison.
C'est le roi du tuning.
Il fait un peu de tuning, du tuning maison.
Oui. Avec les moyens du bord, hein, avec de la peinture, pas du tout avec des éléments qu'il va aller acheter
sur
mécanique. Internet.
Hein. Ouais. Si, il le fait aussi.
Si,
il le fait aussi. Il fait un petit peu de mécanique aussi, il donne des coups de main à ses voisins et tout simplement, je photographie sa voiture devant la maison et je croise Guillaume à ce moment-là. Et là, la conversation s'engage. Et après, on rencontre les gens, on va les voir, on va les revoir, sans forcément d'ailleurs sortir l'appareil photo. Mais le but, c'est d'abord de faire un gros travail d'explication sur la démarche. Et surtout les écouter.
Alors, plusieurs hommes et femmes, des familles, beaucoup, que vous allez rencontrer, avec chaque fois la même présentation. Il y a vraiment tout un dispositif. Vous les photographiez, puis à côté, il y a marqué niveau d'études, généralement très bas, revenu mensuel encore plus bas, moyen de transport, temps passé dans les transports chaque jour, distance parcourue chaque jour, destination la plus lointaine, nombre de départements de résidence. Comment vous avez mis cela en place, qui a un lien avec, bien sûr, cette rhétorique d'En Marche et l'immobilité, qui est le cadre même de cette ville, où personne ne bouge, ou presque?
Alors, c'est pas tout à fait le cas.
C'est pour ça que j'ai dit « ou presque ».
Ou presque.
Vincent
Parce que, effectivement, le point de départ de ce livre, donc moi, je voulais parler de la France des oubliés, mais je voulais le faire de manière un peu différente et sortir un peu des poncifs sur la France périphérique. J'ai voulu effectivement partir de cette injonction à la mobilité qui était contenue dans le titre même du parti En Marche d'Emmanuel Macron. Sachant qu'on a un président de la République qui s'est fortement inspiré de philosophies très anciennes, qui remontent au début du siècle, Walter Lippmann notamment, avec cette notion d'adaptation et de « il faut s'adapter ».
De mobilité.
Et d'injonction, quoi, quelque part, où les élites, ou les leaders, comme il le disait à l'époque, doivent s'adapter. En gros, on dit aux gens comment ils doivent vivre. Et notamment sur cette question de mobilité, il faut bouger. Sous-entendu, bah, si vous n'avez pas de boulot, c'est un peu de votre faute, quoi. Et il n'y a pas eu de sous-entendu, puisqu'il l'a dit très clairement à plusieurs reprises.
Et c'est ce que reprennent systématiquement presque tous les habitants que vous avez rencontrés.
Exactement. Ouais. Et en fin de compte, moi, en voyant déjà les gens un peu sur place avant même l'élection présidentielle, moi, j'avais constaté qu'il y avait différents niveaux de mobilité. On avait effectivement des personnes qui ne bougeaient pas, mais d'abord pour se protéger. C'est-à-dire que effectivement, un cadre de vie où tout est basé sur les solidarités, la proximité, les solidarités familiales, de voisinage, est un moyen finalement de se préserver des dangers de l'extérieur, d'une certaine manière, tels qu'ils peuvent être perçus.
Et de pouvoir vivre avec le minimum.
Et aussi. De pouvoir vivre, je dirais, chichement, d'une certaine manière. C'est une forme d'écologie, finalement. Et de l'autre, on a, parmi les travailleurs peu qualifiés, ceux qui bossent, en tous les cas, et en particulier les hommes, la nécessité d'aller loin pour accéder à la ressource. C'est le cas notamment des routiers, des gens qui travaillent dans la logistique, les transports et dans le BTP. Parce que ces travailleurs sont en concurrence directe avec des travailleurs détachés. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce travail, je l'ai fait aussi en lien avec un institut de recherche qui est le Forum Vie Mobile. Et donc, toute cette méthodologie autour des mobilités, je l'ai travaillée avec...
Et elle est explicitée à la fin, justement, certains intervenants qui expliquent cette mobilité. Alors, vous filmez plusieurs membres d'une même famille. Il y a notamment donc ce fameux Guillaume, 42 ans, sa femme Aline, 43 ans, 4 enfants. Ils ne travaillent pas, ils vivent avec le RSA. Ça donne 1100 euros net par mois, donc c'est très difficile. Mais il y a une double page qui peut surprendre. On y voit Guillaume dire ça. Quand on m'a proposé de travailler en espace vert à l'Esquin, à côté de Lille, j'ai refusé. Ça m'intéressait pas. Ça m'aurait rapporté quoi d'aller plus loin 45 minutes de route avec l'essence à mes frais? Qu'est-ce que j'aurais gagné? Rien. On aurait diminué mon RSA. Et sur la même page, en face, on voit sa femme, Aline, dire cela. Moi, je peux pas travailler. Les filles sont encore trop petites. Qui va s'en occuper sinon? Ça peut surprendre quand même.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais en même temps, c'est la réalité.
Parce qu'il y a plein de femmes qui élèvent leurs enfants tout en travaillant.
Oui, c'est vrai. Maintenant, on est dans des familles, il faut bien prendre en considération le fait que beaucoup des personnes que j'ai pu rencontrer sont passées plus jeunes par les services sociaux et les placements dans des foyers et des familles d'accueil. Et que chez ces couples que j'ai pu rencontrer, il y a vraiment un point d'honneur à faire en sorte que les enfants, eux, puissent s'en sortir. Et quand on prend le cas de Guillaume et Aline, effectivement, c'est une famille qui vit du RSA, qui n'a jamais réellement beaucoup ou vraiment travaillé sur des contrats réguliers. Mais ils ont mis un point d'honneur vraiment à être présents pour les enfants et à faire en sorte que eux s'en sortent. À peu près. Et c'est le cas, puisque on retrouve dans le livre Tanguy qui a eu son bac, qui a eu un BTS.
Tout à fait. Les enfants s'en sortent. Voilà,
on a un deuxième qui passe un CAP, qui va s'en sortir, et deux petites qui s'en sortent plutôt bien à l'école. Et ça, je l'ai retrouvé dans pas mal de familles. C'est vrai que, quelque part, c'est une forme de valeur refuge. C'est le cadre familial qui va permettre de se protéger. Et aussi, dans ce que vous dites et dans ce que vous avez lu par rapport à l'histoire de Guillaume, ce que Guillaume explicite extrêmement clairement, c'est que des contrats courts à temps partiel où il y a des contraintes de temps et des coûts ne sont pas forcément avantageux pour des personnes qui touchent les minima sociaux, puisque les primes d'activité ne vont pas permettre de compenser la faible rémunération. Il va y avoir une petite compensation pendant quelques semaines, quelques mois, et ensuite finalement les avantages sont pas si évidents que cela.
Oui, ça paraît toujours étrange d'entendre ça, de lire ça, c'est vrai. Ça pose quand même un problème.
Oui, ça pose la question quand même.
C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas travailler parce que ça ferait baisser les minima sociaux.
Mais ça pose la question aussi du système du RSA, qui finalement est extrêmement enfermant. Quand il faut bien voir, on le voit avec Loïc d'ailleurs.
Loïc, c'est celui qui ouvre, d'ailleurs, pour de bonnes raisons, qui ouvre le livre. Je vous le laisse présenter.
Oui, alors Loïc, moi je le rencontre à l'époque, il est sorti de prison quelques années avant, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup, beaucoup de galères très jeune, puisque malheureusement, il a été victime de violences familiales enfant. Il a été placé. C'est quelqu'un de courageux.
Très courageux. La valeur travail, c'est vraiment ce qu'il recherche. Oui. Niveau d'études CAP cuisine, revenu mensuel 810 euros net, contrat d'insertion à temps partiel depuis décembre 2018. Et alors après, temps passé dans les transports chaque jour, 2h30 jusqu'à 3h, distance parcourue chaque jour, 30 km. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il n'a pas le permis.
Non, et il veut le passer. Mais là, il essaye de le passer, il passe par les bureaux, on le voit justement face à des portes fermées, c'est l'expression qu'il emploie très, très souvent. C'est ça qui est intéressant, mais ça montre aussi l'absurdité du système de l'aide sociale, parce que finalement, elle n'encourage pas les gens à travailler. Ça pose la question du revenu universel. Enfin,
parce qu'il est en formation, donc il ne peut pas être à Pôle emploi. Parce qu'il est en formation, il ne peut pas recevoir d'argent, donc il ne peut pas avoir son permis. C'est vraiment.
On est dans des situations ubuesques. Ouais. Voilà, où on pourrait détailler, mais je pense que les lecteurs
comprendront. Alors, ce qui est intéressant, vous commencez sur Loïc qui n'a pas son permis, donc, et qui pourtant bouge beaucoup, et vous finissez sur le routier, qui lui gagne plutôt bien sa vie par rapport aux autres, 3500 euros net.
Avec sa femme.
Avec
3000, 3100 avec sa femme.
Voilà, tous les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que lui dit aussi, et qui vient jeter, par exemple, l'opprobre sur le reste de sa famille. Il dit, dans ma vie, j'ai réussi, j'ai mon travail, ma femme, ma bagnole, ma maison, on part en vacances, pas loin, pas longtemps, mais on part en vacances. Enfin bon, on se prive, faut pas croire, on va jamais au resto, ou si peu, j'ai pas tout ce que je voudrais. Mes frères, ils ne veulent pas travailler. Et les frères, ils sont dans le texte, ils ne veulent pas travailler, ils sont bien comme ça, ils vivent avec ce qu'ils ont, je les plains pas, les sous, ils tombent pas du ciel.
Oui.
Vincent Jarosso.
Oui, il y a une enquête d'opinion récente qui corrobore un peu ce propos, où je crois, de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, mais 65%, c'est une étude du CEVIPOF, qui démontrait que 65% des Français considéraient qu'il fallait durcir les conditions d'accès aux aides sociales diverses et variées. Effectivement, c'est le résultat d'une société où on a promu l'individualisme à outrance. D'ailleurs, quand on lit bien la phrase de Michael, qui par ailleurs est un bonhomme absolument adorable, ce qui revient, c'est ma maison, ma bagnole, ma femme. C'est
et mes vacances.
Et mes vacances.
Sa caravane,
Et quelque part, le sens commun, il est où?
Ils se sont tous relus?
Oui. Alors exactement, c'est la démarche aussi, et c'était la même démarche pour l'illusion nationale. Tous les propos sont des propos enregistrés, retranscrits.
À la virgule près.
À la virgule près. Bon, ça c'est du slogan. j'envoie effectivement les propos parce qu'on peut les dénaturer et ils font éventuellement des corrections où ils disent OK et le texte est validé comme ça.
Ça vous inspire quoi, Basile Loganis?
Moi, ça me parle énormément, évidemment, toutes ces problématiques. Quand vous parliez aussi d'une certaine absurdité des aides sociales et comment on peut être enfermé dans une espèce de niche qui fait qu'après, dès qu'on se met un peu à travailler, on devient des espèces de sous-privilégiés qui n'ont plus le droit aux aides. Du coup, c'est des espèces de calculs pas possibles de « Ah oui, mais alors, est-ce que ça vaut la peine de faire ça si après je perds ?» Donc oui, et puis toutes ces situations, évidemment, c'est une autre France que celle de mes personnages qui sont plus des banlieusards d'Île-de-France, mais il y a énormément de problèmes.
De points communs,
on est dans une France qui, c'est ce que je dis au début du livre, qui n'est pas, à proprement parler, la France périphérique. C'est pas vraiment urbain, c'est pas vraiment roman rural, mais il y a des cultures communes avec la Seine-Saint-Denis et certaines banlieues. Il y a des points communs.
Merci Vincent Jarosso. Je dois ajouter une chose quand même, c'est que les photographies sont absolument superbes et qu'elles pourraient faire lieu d'une exposition. Vraiment, c'est de la photographie plasticienne dans les portraits de vos personnages. Les Racines de la colère, c'est aux éditions Les Arènes. C'est salué aujourd'hui dans Le Monde par Florence Aubenas et demain un portfolio dans l'Obs. Vous restez avec nous tous les deux, car c'est la dernière partie de la première partie du NRV. On retrouve tout de suite Soro Solo.
Vous pourriez mettre un disque?
Oui.
Rendez-vous?
Qu'est-ce que vous voulez?
Je vais m'en dire des nouvelles de celui-là.
Soro Solo, ça va nous changer cette fois-ci. Vous nous emmenez du côté de Londres.
Oui, tout à fait.
Pour quelle raison? Quel groupe?
Pour la musique de Ibibio Sound Machine. La machine de son Ibibio. Et c'est un groupe londonien. Et il est composé d'Africains, de Brésiliens, d'Australiens, d'Anglais. Et tout ce beau monde-là s'est rencontré dans les jam sessions des différents clubs de Londres. Ils ont sympathisé. Ils ont découvert un point commun chez les uns et chez les autres. tous adorent la musique qui fait transpirer. Alors, ils se sont dit, ben, pourquoi pas monter un groupe? Et ils se sont dit, ben, on va monter un groupe, mais on va bousculer les frontières des gens et marier technologie, c'est-à-dire les machines, l'ordinateur et les instruments classiques pour proposer une musique volontairement futuriste. Et voilà, le beau programme. Ainsi, Ibibo Sound System, Sound Machine, pardon, Ibibo Sound Machine, va se former en 2013 et sortir un premier album en 2014 qui a déjà un premier succès. Il vient dans différents gros festivals en France. Et puis, ensuite, c'est suivi par donc d'un deuxième album en 2017. Et cette année, ils reviennent avec le nouvel opus qu'ils appellent Doko Mia. Et j'ai déjà oublié le sens. Bon, c'est pas grave. C'est en fait une sorte de brassage de high life, de post-punk, de soul music, d'électro et d'une funk furieusement dansante. Voilà, come down. C'est une invitation de Ibibo Sound Machine à plonger dans le bain bienfaisant de la musique pour apaiser nos angoisses.
Le groupe ne chante manifestement qu'en anglais, ça raconte quoi?
Et en fait, Ibibo Sound Machine chante aussi en Ibibio, d'ailleurs le nom de leur groupe. Et Ibibio, c'est un groupe ethnique et une langue du sud-est du Nigeria. Et c'est la langue maternelle de la chanteuse Eno Williams qui est intégrée dans le groupe. Et leur texte parle de tous nos problèmes quotidiens, quoi, des sujets actuels. La société de consommation, la condition de la femme, les violences faites contre la femme, nos angoisses, le stress est généré par la culture urbaine. Et contre tout ça, Ibibio dit... Nous allons proposer le remède de la musique. Écoutons Eno Williams.
Il se passe beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui et on a juste le sentiment que la musique a le pouvoir d'élever un petit peu les gens, de transmettre un message positif, et c'est ce qu'on espère que notre musique fait, de donner quelque chose aux gens pour les rendre un peu plein d'espoir. On aime bien jouer dans des clubs pleins de sueur.
C'est sur cette note qu'on va terminer. Le titre, c'est I Know What You Are Thinking About Me. Et c'est un extrait de Dakoumian, le nouvel album du groupe multi-ethnique Ibibio Sound Machine, apparaît le 22 mars.
Merci, Sorosolo. On se retrouve mercredi prochain. Tout de suite, on va se quitter avec Rachida. Écoute-moi, camarade. Alors, on l'écoute dans le NRV.
Écoute-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant.
n'est pas pour tes beaux yeux au fait. Si elle t'a pris le bras devant les gens, toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais ne pense qu'à ses amants. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Tu deviens soulard à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excuse-moi vraiment, tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. Qui est ce camarade? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et le voilà. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme.
Écoute-moi camarade de Rachida, et je signale que le festival Banlieue Bleue d'Aubervilliers organise deux soirées les 16 et 23 mars en hommage à Rachida. Le NRV première partie, c'est fini. Les racines de la colère de Vincent Jarousseau, c'est aux éditions Les Arènes. Meltem sort en salle aujourd'hui, ça s'est signé Basile Doganis. Et le festival du cinéma du réel accueille aussi un documentaire de Basile Doganis demain, Altération Komorobushi. Le NRV première partie, c'est fini. On se retrouve dans 15 minutes après le journal avec ça.
Moi, c'est Nicolas. J'ai 8 ans et j'aimerais bien vous raconter ma vie.
Non, faux, il a 60 ans, c'est le petit Nicolas, un héros en culotte courte. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.